On les surnomme déjà les Saint-Lillois et pourtant Philippe Hervrault et Camille Ferronvrault ne sont pas encore béatifiés. Un procès pour défendre la cause de cet entrepreneur du 19e siècle et de son beau-frère médecin est en cours depuis plus d'un siècle. C'est leur trace que je vous propose de suivre pour comprendre qui étaient Philippe Hervrault et Camille Ferronvrault, aussi discrets que leur œuvre fut grande. Bonjour Olivier Camelot.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des amis de Philippe Hervrault et de Camille Ferronvrault. Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale de la Treille à Lille. Évidemment, on n'est pas ici par hasard puisque cette cathédrale doit énormément à cet entrepreneur du 19e siècle et à son beau-frère. On est juste au-dessus de leur tombe. On ne peut pas accéder à la crypte de la cathédrale, mais cette cathédrale doit beaucoup à ce personnage et son beau-frère, Olivier Camelot.
Tout à fait. Et en fait, il y a une volonté, il voulait faire de Lille une ville sainte. Et donc, à l'époque, Lille n'était pas encore diocèse, et donc il n'y avait pas d'évêché ici à Lille. Ils ont voulu construire une basilique. Et pour cette basilique, ils ont été capables d'abord de donner beaucoup d'argent et de mobiliser autour d'eux énormément de donateurs. Et cette basilique a pu devenir ensuite cathédrale, puisqu'ils avaient dans le cœur de faire de Lille également un diocèse.
Philippe Hervrault et Camille Ferronvrault, ce sont deux personnages très méconnus et pourtant à qui Lille doit énormément. On est ici à la cathédrale de la Treille. L'Université catholique de Lille n'aurait pas vu le jour, on peut le dire, sans eux. La médecine aussi, à l'Université catholique, il y a deux universités de médecine à Lille, une spécificité rare en France. Grâce en particulier à Camille Ferronvrault, beaucoup d'écoles, beaucoup d'églises, des patronages. Qu'est-ce qu'on leur doit à ces deux personnages, Philippe Hervrault et Camille Ferronvrault?
Une volonté, effectivement, de construire des bâtiments avec un but pour l'éducation. Ils étaient très sensibles à l'éducation. Former des jeunes, former des étudiants avec un esprit chrétien. Faire de Lille, effectivement, cette ville universitaire. Parce que quand on dit que s'il y a une université catholique à Lille, c'est grâce à Philippe et Camille, on peut dire aussi indirectement, et c'est quand même très amusant, que s'il y a une université publique à Lille, c'est grâce à eux, puisque ça a été une réaction, ça a été une réponse. L'université publique est arrivée après l'université catholique. Donc, effectivement, ces doubles universités, cette présence de la faculté de médecine, et puis la présence des hôpitaux, des dispensaires. Aujourd'hui, quand on parle de Saint-Vincent et Saint-Philibert, qui sont tout le pôle hospitalier très important de la Cato, c'est grâce à nos deux amis.
Deux amis très méconnus, pour quelles raisons? Parce que leur œuvre est immense. Pourquoi on les connaît si peu?
Ah, parce que ce sont des Lillois. Alors les Lillois, pour être heureux, vivent cachés. Et donc c'était d'abord effectivement deux hommes qui ont fait tout dans l'ombre. Aujourd'hui, pour nous qui souhaitons leur béatification, ce sont pour ces deux qualités de discrétion, de tout faire de façon très très cachée et très modeste, ce sont de grandes qualités aux yeux de Dieu, mais pour nous, associations, ce sont deux très grands défauts. Parce que résultat, eh bien, nous devons énormément travailler pour mieux les faire connaître. Donc c'est vraiment lié à leur personnalité propre.
Pour être saint, il faut faire des miracles. On leur en connaît déjà?
Alors déjà, le miracle, c'est de voir tout ce qui a été construit, par ces deux hommes et de voir ce qu'ils avaient dans le cœur, ce souhait de faire de Lille une ville sainte et devenue diocèse un petit peu plus tard. Alors ça, on peut déjà considérer comme un miracle. Après, il y a des miracles qui sont déjà dans le dossier de béatification, mais qui sont restés un peu en suspens. Et aujourd'hui, je dirais, c'est le boulot de Dieu. Si on veut avoir un miracle, ça, c'est pas notre job.
On peut dire, Olivier Camelot, que tout est parti de Philippe Hervrault, au départ, cet entrepreneur lillois qui a récupéré de son père une entreprise de fil de lin, entreprise qui était très près d'ici.
Alors c'est tout près, puisque l'entreprise était située place du Concert, elle était à l'origine même rue du Pont-Neuf, puis ensuite place du Concert, et donc on voit encore les locaux de quand elle était rue du Pont-Neuf, et celle de place du Concert, ça a été détruit. Et en revanche, on voit très bien l'endroit, et l'entreprise venait du père de Philibert, Puis Philibert y est entré et l'entreprise se développant tellement, il a demandé à son beau-frère médecin, Camille Ferronvraud, d'entrer dans l'entreprise, de quitter la médecine pour entrer dans l'entreprise. Ensuite, c'était vraiment devenu l'entreprise des deux beaux-frères, avec chacun une fonction un peu particulière dans l'entreprise, puisque Camille est l'homme qui restait sur place et Philibert était le voyageur. Et donc, ce qui a permis le développement commercial de l'entreprise. Et en plus de ça, il profitait de ses voyages pour faire ses œuvres de Dieu, et c'est comme ça qu'on l'a appelé le commis voyageur de Dieu.
Si l'entreprise n'existe plus, il reste quand même la maison, on peut aller la voir ?
L'entreprise n'existe plus, mais il existe encore les produits, puisque l'entreprise s'est arrêtée au début des années 2000, mais la gamme de produits a été reprise, et toujours aujourd'hui, on peut acheter le fameux filo chinois, et on peut aller voir la maison.
On y va ?
On y va.
Donc là, on est face à l'hôtel Vraud, Olivier Camelot. Où est né Philibert Vraud ?
Alors, je ne sais pas s'il est né là. Probablement, en tout cas, l'hôtel appartenait déjà à ses parents, puisque ça datait déjà de cette époque-là. Est-ce qu'il est né là ? Je n'en suis pas certain. S'il est né là, il a été probablement baptisé à Sainte-Marie-Madeleine, ce que les Lillois appellent la Grosse Madeleine.
Philibert Vraud, donc cet entrepreneur du Nord du 19e siècle, un patron décrit comme idéal presque.
Alors c'est un patron effectivement qui avait une sensibilité sociale extrêmement développée, assez pionnier pour l'époque, puisqu'il avait un vrai souci de son personnel. Alors en même temps avec un vrai souci quand même d'efficacité économique pour son entreprise, parce que c'était son but, mais il avait un vrai souci de qualité sociale, donc pas de travail le dimanche, pas de travail de nuit pour les femmes, une sorte de caisse de retraite, une sorte de caisse aussi médicale, un semblant de sécurité sociale, il avait mis, et puis des salaires qui étaient, alors pas le double de ce que pouvaient donner ses concurrents, mais des salaires un peu supérieurs à la moyenne.
Donc il ne connaissait pas de crise sociale au sein de son entreprise ?
Mais connaissait une grande, grande fidélité de son personnel. Hein, et puis l'entreprise est montée, puisque elle est montée jusqu'à 1200, de mémoire, 1200 employés, ce qui était gigantesque ici en centre-ville.
Avoir la volonté de faire de Lille une ville sainte, c'est un rêve complètement dingue.
Ah ben ça, au départ, ça peut paraître vraiment passer pour un gag. Quoi. Il n'était pas du tout lucide. Et en revanche, on se rend compte que cette ville qui était préfecture depuis peu de temps, qui n'était pas la tête du diocèse, qui n'était pas la capitale ni universitaire, ni judiciaire, avec l'arrivée de Philibert, avec cette vision de Philibert et d'autres évidemment, mais à laquelle il a contribué, quelques années plus tard, Lille est devenue vraiment cette ville phare de toute la région.
Je propose qu'on se rapproche de la façade de l'hôtel Vraud qui appartenait à la famille Vraud. On parle beaucoup de Philibert. À quel moment Camille Ferronvraud est entrée dans l'aventure ?
Alors, les parents de Philibert et Camille étaient amis. Et donc, Philibert et Camille se connaissaient depuis leur petite enfance. Camille a été très important dans la vie de Philibert, puisque Philibert, à un moment, a perdu la foi. Et c'est son ami Camille qui a contribué à lui faire retrouver la foi. Donc ça a été la première étape. Deuxième étape, Camille a épousé la sœur de Philibert, donc ça fait un rapprochement supplémentaire. Camille était médecin et à la demande de son beau-père, Monsieur Vraud, le père de Philibert, on lui a demandé s'il acceptait d'arrêter d'être médecin. Je crois qu'il était médecin depuis 3 ans en activité, pour rejoindre l'entreprise qui se développait énormément. Et donc à partir de ce moment-là, les deux beaux-frères, qu'on appelle d'ailleurs dans un livre de Monseigneur Bonnard très connu pour les connaisseurs, les deux frères, ont été indissociables, unis dans toutes leurs activités industrielles et aussi humaines et chrétiennes.
Olivier Camelot, vous découvrez en même temps que moi l'intérieur donc de cet hôtel particulier.
Ah ben, je suis très touché, très ému parce que j'en ai toujours entendu parler. Et puis là, on se retrouve dans la cour. On retrouve les initiales de Philibert là-haut, la statue du Christ, cette cour intérieure, ce bâtiment où on comprend bien qu'il y avait une partie habitation et une partie usine. Et c'est beaucoup plus clair une fois qu'on est dans cette cour. On vous raccompagne.
Olivier Camelot, Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault, donc c'est, on l'a bien compris, on l'a vu, la cathédrale Notre-Dame de la Treille, qu'ils ont en grande partie financée, l'Université catholique de Lille, sans laquelle on peut dire elle n'existerait pas. Ce sont des patronages, des dizaines d'églises aussi, des patronages des écoles, et aussi un investissement sur la presse chrétienne locale.
Oui, alors c'est en fait à travers Paul Ferron-Vrault, le fils de Camille, qui a repris l'entreprise, et c'est lui qui, au tout début du XXe siècle, quand les congrégations religieuses ont été mises dehors, a repris toute la presse catholique locale. Et donc, si aujourd'hui il y a encore une presse catholique locale et aussi la Croix de Paris, ça a été fortement dû à la filiation, on va dire, de Philibert et Camille.
Olivier Camelot, pourquoi on vous sent proche de Philibert Vrault et de son beau-frère Camille Ferron-Vrault ?
Alors c'est vrai qu'a priori, voilà, des hommes du 19e siècle, on pourrait imaginer que c'est un petit peu dépassé, que c'est pas du tout d'actualité. Et moi je suis extrêmement touché, avec moi les membres de notre comité, de voir à quel point leur message, leur action, leur sensibilité, leur spiritualité, c'est un vrai message pour aujourd'hui, c'est un message pour nous. Et je suis convaincu qu'ils peuvent encore nous édifier, nous faire grandir dans leur notion d'approche de l'argent, dans la notion de rapports au sein d'une entreprise. Alors certes, il faut le regarder avec les yeux du 19e ou les yeux d'aujourd'hui, n'empêche que le discours est vraiment actuel. Ce peut être des saints pour aujourd'hui.
Bonjour Bruno Bétoir.
Bonjour.
Vous êtes historien et c'est à vous qu'incombe la lourde tâche d'enquêter sur Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault en vue d'un procès en béatification. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire ?
Oh, tout simplement, après avoir fait mes études à la faculté catholique pour une grande partie, j'avais abandonné, puisque j'ai été professeur à l'université du littoral Côte d'Opale pendant une vingtaine d'années. Mais j'avais conservé, notamment par M. Yves-Marie Hilaire, des attaches avec l'Université catholique de Lille. Et donc, j'ai été amené à être sollicité pour expertiser, c'est exactement le terme, expertiser sur le plan historique la validité de cette demande de procès en béatification. J'ai été contacté notamment par des personnes de l'Université catholique, et ensuite, quand l'abbé Luc Dubrulle a dû quitter la Cato, Mgr Ulrich m'a demandé de passer du statut d'expert au statut de vice-postulateur sur le site, avec comme postulateur Mgr Bousquet, qui était le recteur de Saint-Louis des Français à Rome, et aujourd'hui du père Leclerc, qui est l'assomptionniste en charge désormais depuis 2020, c'est tout à fait récent. Donc j'ai commencé le travail d'investigation, pas tellement sur Philibert Vrault, parce qu'un colloque avait été réalisé à l'initiative de Catherine Masson et d'autres personnes. Et donc Philibert Vrault était assez connu. Par contre, Camille Ferron-Vrault nécessitait quelques petites recherches, parce que c'est une personnalité un peu dans l'ombre de Philibert Vrault, mais très complémentaire.
Reprendre depuis le début, puisqu'il y a eu plusieurs rebondissements de ce procès en béatification. Nous sommes ici dans la chapelle tout récemment inaugurée, la chapelle de la Cato. Je propose qu'on se rapproche de cette plaque Bruno Bétoir, qui est un grand latiniste, adveniat regnum tuum, à Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault, ses insignes bienfaiteurs, l'Université catholique reconnaissante. Évidemment, l'Université catholique peut être reconnaissante à ces deux bienfaiteurs de l'université catholique. On peut dire qu'il n'y aurait pas eu de Cato sans Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault. Aujourd'hui, on leur doit beaucoup, l'université catholique, Notre-Dame de Latreille, la cathédrale de Lille, une bonne dizaine d'églises, des dispensaires également, des écoles, des patronages. Okay. Est-ce que ça suffit, entre guillemets, à devenir saint avec ces œuvres de bienfaisance?
Pour devenir saint, il faut avoir possédé les vertus cardinales. La foi, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'espérance, non plus. La charité, elle a été manifeste durant toute leur vie. Leur testament spirituel de l'un et de l'autre parle pour de lui-même. Ils sont morts avec pratiquement rien sur le plan de la fortune personnelle. Tout avait été donné, offert. Plus d'une dizaine de millions de francs, parce que c'était en France à cette époque-là, pour l'université dans toutes ses dimensions, et des sommes considérables pour les œuvres, conférences Saint-Vincent de Paul, patronage, école catholique, presse, par l'intermédiaire de Paul Ferron-Vrault, qui est le fils de Camille Ferron-Vrault et de Marie Vrault, et donc des sommes tout à fait considérables, la charité, ils l'ont mis en exécution durant toute leur vie.
Au départ, ce procès en béatification concernait Philibert Vrault, Camille Ferron-Vrault, puis uniquement Philibert Vrault. Le procès a été suspendu dans les années 50. Ce procès en béatification a connu de nombreux rebondissements, Bruno Bétoir.
Ah oui, mais c'est l'histoire, ça, c'est l'histoire. L'histoire est faite de flux et de reflux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où des personnes sont dans le courant, il y a d'autres moments où ils sont plutôt dans le reflux. Pour ce qui est de Philibert, mort en 1905, et Camille, mort en 1908, immédiatement, dès la mort de Philibert, et après, encore plus après la mort de Camille, spontanément, les autorités, notamment universitaires, mais aussi paroissiales, diocésaines, ont souhaité qu'une démarche de procès diocésain se mette en place. Entre l'idée et la réalité, il s'est passé quelques années. 1912, le procès diocésain commence. Et donc, flux de témoignages, il y a même quelques demandes, quelques réalités de reconnaissance de situations miraculeuses, entre guillemets, qui ont été évoquées pour certaines personnes.
Quel genre de miracle ?
Quelqu'un qui a été guéri par rapport à une maladie qu'il avait, une maladie dans le dos, et qui, après avoir... Bon, alors donc ça demanderait expertise de manière encore plus précise. Mais bref, il y avait une demande. Cette demande commence en 1912... Et le procès, tranquillement, se met en place jusqu'en 1930. Pour les deux frères, comme dit Mgr Bonnard, qui a fait une magnifique biographie des deux, comparée, en 1926. Donc on est vraiment là, ça a l'air d'être bien parti. Donc on passe à l'étage supérieur, forcément. On passe au procès apostolique romain, qui commence en 1930. Et là, pas de chance, comme pour le premier, arrêté par la Première Guerre mondiale, le second... est arrêté par la Seconde Guerre mondiale en 1937. Et la guerre se termine, 1945. Et en 1950, pour être précis, au mois de juin 1950, le cardinal Liénard fait part aux autorités référentes romaines de quelques réticences de la part de militants du mouvement ouvrier catholique à l'égard de la démarche de procès de béatification de la part de pour Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault, au motif que leur attitude était une attitude, nous sommes en 1950, paternaliste, voilà, entre guillemets, le péché originel qui a été. Et donc le cardinal Liénard, qui a été un évêque social, qui a toujours défendu le mouvement ouvrier, notamment le mouvement ouvrier chrétien, est interpellé au point qu'il envoie un courrier faisant état de ses hésitations, voire de ses doutes sur cette question. Le procès s'arrête. Et il va reprendre sur une démarche tactique différente. Au lieu de suivre le procès des deux personnes concernées, Philibert Vrault, qui était là quand même la figure la plus connue des deux, celui qui avait la surface sociale relationnelle la plus importante, on se dit peut-être que Philibert Vrault seul pourrait être admis sur les hôtels. Et du coup, une autre démarche commence. Cette démarche a été lancée par Monseigneur Gérard deux fois, avec Xavier Théry, qui a été le dernier responsable des usines Vro, qui était ingénieur de formation, mais passionné par la personnalité de l'un et de l'autre, a organisé, je le disais tout à l'heure avec Catherine Masson, un colloque sur Philibert Vro, Camille Firon-Vro étant en quelque sorte laissé sur le côté de la route.
Au départ, ce procès en béatification concernait Philibert Vro, Camille Ferron-Vro, puis uniquement Philibert Vro. Le procès a été suspendu dans les années 50. Ce procès en béatification a connu de nombreux rebondissements, Bruno Bétoir.
Ah oui, mais c'est l'histoire, ça, c'est l'histoire. L'histoire est faite de flux et de reflux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où des personnes sont dans le courant, il y a d'autres moments où ils sont plutôt dans le reflux. Pour ce qui est de Philibert, mort en 1905, et Camille, mort en 1908, immédiatement, dès la mort de Philibert, et après, encore plus après la mort de Camille, spontanément, les autorités, notamment universitaires, mais aussi paroissiales, diocésaines, ont souhaité qu'une démarche de procès diocésain se mette en place. Entre l'idée et la réalité, s'est passé quelques années, 1912, le procès diocésain commence. Et donc, flux de témoignages, il y a même quelques demandes, quelques réalités de reconnaissance de situations « miraculeuses » entre guillemets, qui ont été évoquées pour certaines personnes.
Quel genre de miracle ?
Quelqu'un qui a été guéri par rapport à une maladie qu'il avait, une maladie dans le dos, et qui, après avoir... Bon, alors donc ça demanderait expertise de manière encore plus précise. Mais bref, il y avait une demande. Cette demande commence en 1912... Et le procès, tranquillement, se met en place jusqu'en 1930. Pour les deux frères, comme dit Monseigneur Bonnard, qui a fait une magnifique biographie des deux, comparée, en 1926. Donc on est vraiment là, ça a l'air d'être bien parti. Donc on passe à l'étage supérieur, forcément. On passe au procès apostolique romain, qui commence en 1930. Et là, pas de chance, comme pour le premier arrêté par la Première Guerre mondiale, le second est arrêté par la Seconde Guerre mondiale en 1937. Et la guerre se termine, 1945. Et en 1950, pour être précis, au mois de juin 1950, le cardinal Liénard fait part aux autorités référentes romaines de quelques réticences de la part de militants du mouvement ouvrier catholique à l'égard de la démarche de procès de béatification de la part de pour Philibert Vro et Camille Ferron-Vro, au motif que leur attitude était une attitude, nous sommes en 1950, paternaliste, voilà, entre guillemets, le péché originel qui a été. Et donc le cardinal Liénard, qui a été un évêque social, qui a toujours défendu le mouvement ouvrier, notamment le mouvement ouvrier chrétien, est interpellé au point qu'il envoie un courrier faisant état de ses hésitations, voire de ses doutes sur cette question. Le procès s'arrête. Et il va reprendre sur une démarche tactique différente. Au lieu de suivre le procès des deux personnes concernées, Philibert Vro, qui était là quand même la figure la plus connue des deux, celui qui avait la surface sociale relationnelle la plus importante, on se dit peut-être que Philibert Vro seul pourrait être admis sur les autels. Et du coup, une autre démarche commence. Cette démarche a été lancée par Monseigneur Gérard deux fois, avec Xavier Théry, qui a été le dernier responsable des usines Vro, qui était ingénieur de formation, mais passionné par la personnalité de l'un et de l'autre, a organisé, je le disais tout à l'heure avec Catherine Masson, un colloque sur Philibert Vro, Camille Ferron-Vro étant en quelque sorte laissé sur le côté de la route.
Catherine Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'histoire de la Cato de Lille. Vous avez suivi de près l'histoire de Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault. Vous avez organisé un colloque sur Philibert Vrault. Ce personnage emblématique de la ville de Lille, très méconnu, très discret, à l'origine de beaucoup de choses. Nous sommes ici à l'Université catholique de Lille, dans cette chapelle qui lui rend hommage avec cette plaque. Un bel hommage rendu donc à ses frères, comme on les appelle. Philibert Vrault est cette figure paternaliste. On met en avant Philibert Vrault dans l'histoire, dans ce procès en béatification. Or, c'est peut-être le plus controversé des deux, entre Philibert et Camille.
Je ne dirais pas comme ça, je ne suis pas sûre. Parce qu'on met en avant la dimension paternaliste. Mais en fait, il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est le grand péché en histoire de faire de l'anachronisme. Péché mortel en histoire, absolument. Et, parce que en fait, tous les deux, ils ont entendu l'encyclique de Léon XIII. En 1891, Rerum Novarum, qui dénonce la misère imméritée des ouvriers. Et ils ont été hypersensibles à cette dénonciation. Et donc, ils ont fait partie de ces chrétiens relativement peu nombreux au XIXe siècle. Ils devenaient plus nombreux à la fin du XIXe siècle, mais relativement peu nombreux quand même au XIXe siècle, qui ont pris conscience qu'il y avait un problème et qui ont cherché à le résoudre avec les moyens de leur temps. Alors, c'est sûr que c'est pas les moyens de l'action catholique qui seront mis en œuvre après, au milieu du 20e, enfin, dans les années 1930, puis 20-30, puis au milieu du 20e siècle, et que dans les années 50, on est choqué parce qu'on regarde les choses avec les critères des années 50. Mais à la fin du 19e siècle, ils étaient novateurs. Et je pense que si on veut regarder leur sainteté et la manière dont ils ont incarné leur foi en leur temps, on ne peut pas leur imputer un péché de paternalisme. Ils ont incarné leur foi en leur temps. Après, on a dit que... voilà, que c'était du paternalisme, mais on pouvait pas faire autrement. Et puis, en fait, est-ce que c'était vraiment du paternalisme? Je suis pas sûre, parce que ils avaient le souci de faire participer les ouvriers de leur usine à leur propre secours, dans l'usine, dans leur famille, etc. Alors, après, bon, on invente, hein, en histoire, le temps avance, et puis on découvre d'autres choses, et on a d'autres manières de le vivre. Mais, de fait, aujourd'hui, on ferait plus ça. L'usine chrétienne, aujourd'hui, on ferait plus. C'est une évidence. Et donc, ça peut pas servir de modèle pour aujourd'hui. Par contre, ce qui peut servir de modèle, c'est la manière dont aujourd'hui je reçois l'Évangile et je l'incarne dans ma vie concrète.
Bruno Bétoire, les figures de Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault, est-ce qu'elles peuvent inspirer la génération d'aujourd'hui avec ces figures entrepreneuriales du 19e siècle? Ça parle plus forcément aujourd'hui, ça.
Oui, alors je pense que on peut trouver dans ce que Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault ont mis en œuvre certaines intuitions de Vatican II, notamment la présence des chrétiens au monde. La présence des chrétiens dans le monde de la santé, dans le monde de l'enseignement. Alors, de manière confessionnelle, certes, mais ça continue, puisque l'université catholique aujourd'hui reste très présente dans le monde de l'éducation. Et puis, comme vous venez de le dire, dans le monde de l'entreprise. Ce serait pour une première dans l'Église de reconnaître des chefs d'entreprise innovants. Le Phil Vrault a été, sur le plan de la méthode de fabrication, tout à fait innovant. Et ça, c'est Philibert Vrault. Et Camille Ferron-Vrault a été un personnage qui a fait en sorte de mettre dans la réflexion sur la gestion du quotidien de l'entreprise les employés auxquels il était très attaché. Chaque semaine, le dimanche matin, il venait dans les cercles du personnel de l'entreprise Vrault pour écouter et échanger avec les ouvriers du cadre au plus simple salarié. Tous les dimanches, il ne ratait jamais l'occasion. Donc on a là des modèles d'intuition de présence au monde, c'est-à-dire l'horizontalisme, mais en même temps, et c'est une intuition de Vatican II développée par Jean-Paul II, le verticalisme cher à Don Helder Camara, avec l'adoration, les congrès eucharistiques, toutes ces activités dites de piété, mais qui reliaient le ciel à la terre, en même temps que l'horizontalisme de leur disposition, ils étaient en lien avec leurs employés.
Catherine Masson, c'est intéressant hein, de remettre toujours l'histoire en perspective, de éviter les anachronismes comme il est facile de le faire. Le 19e siècle, il y a cette question de l'anti-judaïté également. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte aussi dans ce procès en béatification ?
L'anti-judaïsme, effectivement, plus que l'antisémitisme. Et ça, il était partagé par, j'allais dire, tous les catholiques. À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'exceptions que l'on puisse trouver au 19e siècle. Et le journal La Croix, l'été. Et donc, effectivement, il y a une dimension d'anti-judaïsme chez Philibert et sans doute chez Camille, je ne sais pas.
C'est la preuve que personne n'est parfait, entre guillemets. Un saint n'est pas quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui vise à la perfection. Et de ce point de vue-là, on peut le reconnaître, les Camille Ferrand-Vraud, mais surtout Philibert Vraud, dont on a trouvé le nom sur une liste de personnes qui avaient, mais on ne connaît pas la date de cette liste, une liste qui concernait une pétition en faveur de Dreyfus. On est dans le contexte Dreyfusard, et donc l'immense majorité des catholiques avaient pris parti. Certes, certains avaient, Peggy et d'autres, vu clair sur cette affaire, mais donc c'est plus de l'anti-judaïsme, c'est certainement pas de l'antisémitisme. Une sorte de colloque d'historiens, dont M. Yves-Marie Heller, troisième fois que je le cite, eh bien, en 2010, avait réfléchi à la question, et on conclut qu'on ne peut absolument pas parler d'antisémitisme pour Philibert Vraud. Quant à Camille Ferrand-Vraud, aucune mention dans ses écrits, tout comme Philibert, aucune mention dans leurs écrits d'antisémitisme, simplement un nom sur une liste au moment de l'affaire Dreyfus. Voilà exactement la réalité.
Voici devant la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université catholique de Lille, la première. Donc on doit spécifiquement cette fois-ci à Camille Ferrand-Vraud. Bruno Bétoir, quels sont, pour résumer, les grands atouts dans le dossier de procès en béatification de Philibert Vraud et Camille Ferrand-Vraud, et quels seraient les points faibles de ce dossier qui pourraient que cette béatification n'aboutisse pas ?
Alors, point faible d'abord. Point faible. Le tempérament de Camille Ferrand-Vraud était un tempérament d'interrogation permanente. Il avait une foi profonde, mais il doutait de lui-même. Une sorte de retrait sur lui-même. Ensuite, la question du syndicalisme, du syndicat, du paternalisme, entre guillemets, ça c'est sûr, du côté de Camille Ferrand-Vraud. Du côté de Philibert Vraud, il a douté, mais saint Augustin a douté aussi durant sa jeunesse, donc c'est presque d'une certaine manière plutôt bon signe. Non, la question c'est effectivement l'anti-judaïsme. Il est évident que si c'était de l'antisémitisme afféré, la cause était définitivement. Mais là, nous sommes dans une démarche qu'il faut remettre dans le contexte. Alors voilà, pour les limites, à mon avis, pour ceux qui sont réels. Pour ce qui relève des qualités et des atouts, écoutez, pour l'Église universelle, ce sont des personnalités qui sont ancrées dans un milieu social, professionnel, et autant qu'ecclésial, ce sont des laïcs. Et l'idée que Marie Vraud puisse être associée, ça serait aussi intéressant, puisque c'est vraiment la compagne, et elle a joué un rôle important vis-à-vis de son frère et de son mari. Ça, c'est l'Église universelle. Pour l'Église locale, eh bien, tout le presbytérium a depuis longtemps reconnu la qualité exceptionnelle et l'impact, l'influence de ces deux personnalités sur le monde de la santé, le monde de l'entreprise, le monde universitaire. On peut dire que ces deux frères sont deux modèles de vie de laïc qui conjuguent prière, vie sacramentelle, la relation avec Dieu, et un fort engagement dans la société.
La prochaine étape, Bruno Bétoir.
La prochaine étape, c'est de rencontrer Mgr Bousquet, puis ensuite le père Vincent Leclerc, pour, à Rome, défendre la cause en fonction de l'héroïcité de ces deux personnalités, avec les vertus cardinales et les vertus théologales. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de possible, à condition de remettre toutes leurs activités, leurs prises de position dans le contexte.
Merci infiniment pour toutes ces précisions concernant ce procès en béatification de Philibert Vrau et Camille Ferron-Vrau, son beau-frère. On se quitte ici devant cette faculté de médecine que l'on doit donc à ce couple peut-être bientôt sain, qui sait ?